l'Europe. Quelle belle idée. Née sur les cendres d'un continent en ruine après la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne, forte désormais de ses 27 membres et d'autres camps et d'autres candidats, est une institution incontournable du monde politique et économique. Mais est-elle si incontournable au vu du faible taux de participation lors des élections et de son rôle souvent méconnu et parfois contesté? Chaque pays veut avoir son mot à dire, les lobbies y sont omniprésents, et les nationalistes de tous bords, pourtant farouchement opposés à cette belle idée, y rentrent progressivement élection après élection. Alors que faire de cette alliance? On la rénove de fond en comble, on la détruit complètement, Studio F, en amont des prochaines élections européennes, lance un cycle d'émissions sur l'Europe pour tenter de comprendre les enjeux d'un scrutin déterminant. Bienvenue à tous et à toutes dans La Lorgnette. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre dans La Lorgnette. Je suis accompagné donc pour cette première émission autour de l'Union Européenne et des grandes questions liées à l'Europe en vue des élections du 9 juin prochain. Je suis accompagné pour cette émission de Jean-Marie Génard. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Vous êtes administrateur, juste membre de l'association Europe Ensemble?
Non. Président.
Président de l'association Europe Ensemble, je n'avais pas noté ce détail, donc président de l'Europe Ensemble, est-ce que vous pouvez justement
association
la présenter?
Association blaisoise, ouais. Mais soutenue à la fois par la ville de Blois et par la région Centre-Val de Loire, une association qui réunit des personnes qui sont motivées par justement cette idée européenne et qui entendent partager à la fois leurs convictions bien sûr, mais aussi donner de l'information, de la compréhension sur ces institutions européennes et puis plus largement faire vivre un peu l'idéal européen à travers la connaissance des cultures européennes, des langues européennes, de l'histoire et des mémoires européennes. C'est aussi un aspect très important pour nous.
On va reparler plus tard de l'Europe Ensemble et puis on aura l'occasion de collaborer un peu plus tard dans ce cycle d'émissions à venir sur Studio F de l'Europe. Également autour de cette table, alors un vieil ami, voilà, on est sur une petite radio, c'est pas grave, on peut tout dire, un vieil ami Martin, salut Martin.
Bonjour.
On se connaît depuis longtemps et tu as un passé au niveau de ta connaissance de l'Europe. Tu as beaucoup étudié les institutions, tu as vécu en Allemagne, tu as travaillé pour le Parlement. Et donc à ce niveau-là, les institutions, et tu as notamment travaillé aussi à Strasbourg, tu peux nous rappeler rapidement ton parcours lié plus ou moins à l'Europe?
Oui, bonjour à tout le monde. Donc j'habite à Blois depuis 3 ans et avant cela, j'ai eu un parcours européen. Parce que je m'intéressais beaucoup aux questions européennes déjà au lycée. J'ai eu envie d'étudier ces questions-là. Et donc, je suis parti en Allemagne étudier les sciences politiques et j'ai terminé mes études à Strasbourg sur le domaine des politiques européennes avec une spécialisation sur les politiques franco-allemandes, ce qui m'a permis de passer du temps à Strasbourg. J'ai découvert aussi les institutions européennes à Bruxelles. Et puis j'ai fini à Berlin après au Parlement où j'ai travaillé également.
Et donc un citoyen concerné, c'est aussi bien qu'on puisse donner la parole à ces personnes puisqu'on n'a pas l'occasion de recevoir des simples citoyens mais qui ont une vraie connaissance du terrain. Merci à tous les deux d'être venus. Je voulais évidemment pour qu'on commence et qu'on inaugure donc comme je le disais ce cycle d'émissions, qu'on remette un peu en perspective historique rapidement, ça va pas être le cœur de notre sujet, mais quelques actes fondateurs et les motivations politiques de la création de cette Union européenne. Jean-Marie, si vous voulez commencer.
On approche d'ailleurs d'une date symbolique qui est le 9 mai, en sens que le 9 mai 1950, c'est le discours qui a lancé l'idée européenne à travers un discours prononcé par Robert Schuman, inspiré par Jean Monnet, et qui était l'appel à créer une communauté européenne du charbon et de l'acier qui posait les fondements d'une collaboration européenne. À l'époque, 6 pays étaient invités à se rejoindre, l'Allemagne bien sûr. Bien sûr, en tout cas, c'était quand même l'innovation, c'est l'Allemagne qui avait été vaincue, qui avait été l'ennemi, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Et sur cette lancée, l'idée c'était de faire une Europe à petits pas, dans des réalisations concrètes, c'est ce que disait Robert Schuman, et puis de faire cette solidarité économique pour empêcher les guerres. Je crois que c'était l'idée fondamentale, et puis relancer la reconstruction, parce que l'Europe était exsangue. Et puis, bien sûr, ça a été suivi, ça a été un succès.
C'est l'agrandissement a toujours été
alors, c'est
voulu progressif.
Pas tout de suite l'agrandissement, surtout l'approfondissement,
sûr,
mais... puisque 1957, ça a été le traité de Rome qui lance vraiment la communauté européenne, économique européenne, hein, sur la base donc, des échanges économiques, qui sera dans ce cadre-là, on va créer notamment la PAC, la politique agricole commune, en 1962. Hein. Et alors, effectivement, cette Europe et 1968, c'est la fin des droits de douane, par exemple. Donc, on commence vraiment sur la base économique. L'Europe naît sur une base économique. Elle a échoué d'ailleurs en 1952-54 sur avoir une volonté politique et militaire à travers l'échec de la communauté européenne de défense. Mais ça, on peut en reparler. Et puis, en effet, il y a eu des élargissements progressifs. Peu à peu, ça devient très attractif. Hein. Entre 73, ce qui est le premier élargissement avec le Royaume-Uni, le Danemark et puis l'Irlande, vont suivre un certain nombre d'étapes qui vont nous mener à 27 pays. Le dernier pays, étant la Croatie en 2013. Mais il y a une étape vraiment fondamentale, c'est 2004 avec 10 nouveaux États qui entrent et qui sont des États qui entrent grâce, en fait, à la fin de la guerre froide, de Berlin, la fin du bloc soviétique.
Mais c'est en 89, la chute du mur.
Oui, 1989.
Il y a eu une grosse quinzaine d'années, quinzaine d'années.
Peu à peu, on a ouvert, évidemment, l'Union européenne s'est ouverte à tous ces pays de l'Europe centrale et orientale qui avaient, d'une certaine façon, une communauté de destin, qui renouait avec cette communauté de destin européen. Et alors, évidemment, ça a été contesté parce que l'élargissement peut être trop précipité pour certains. D'autres ont dit, au contraire, c'était la fonction même de l'Union européenne de s'ouvrir à ces pays. Mais c'est là qu'on trouve effectivement la République tchèque, à l'époque Tchécoslovaquie, mais devenue République tchèque et Slovaquie, la Pologne, etc. Et Malte, par exemple, aussi.
Son rôle, évidemment.
Juste très rapidement, vas-y. Cette force d'attraction de l'Union européenne porte aussi sur des pays désormais candidats. Alors, depuis très longtemps, il y a la Turquie, mais qui restera en fait encore très longtemps à la porte. Mais si vous voulez, tous les pays de l'ex-Yougoslavie sont désormais des candidats, sauf le Kosovo, parce que c'est un peu particulier, le Kosovo. Et puis, très récemment, dans le cadre de la crise actuelle que vit l'Europe avec la guerre Russie en Ukraine, c'est l'ouverture à la candidature de l'Ukraine et également de la Moldavie. La Géorgie a pour longtemps été restée un peu en dehors de ça parce qu'elle ne souscrit pas à tous les critères, soi-disant. Voilà, très rapidement brossé. Après, ça, c'est vraiment pour montrer l'extension. Après, il y a effectivement des moments très forts qui marquent la construction européenne, à savoir, je pense, en 1992, le traité de Maastricht qui va déboucher sur la création de l'euro, hein. Très rapidement.
Acte fondateur, s'il en est, la monnaie unique.
Et monnaie unique, et donc 1999-2002, la monnaie unique se met à circuler. Ouais. Actuellement, il y a 20 pays sur les 27 qui utilisent l'euro. Et puis, après l'échec du référendum de 2005, c'est 2007, le traité de Lisbonne, qui entre en vigueur en 2009, qui fait fonctionner aujourd'hui l'Union européenne à 27.
Le traité de Lisbonne est le dernier traité ratifié.
Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'en dit mon collègue.
Oui, peut-être ajouter une date après ce panorama déjà bien complet. C'est 1979, c'est la première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Donc ça montre aussi que l'Union européenne, c'est une construction politique très progressive. On est parti à 6, là on est à 27, mais aussi démocratiquement. C'est un espace qui met en place différents processus et notamment élire... via un Parlement, ses représentants au suffrage universel direct. Et aujourd'hui, donc, on a un grand espace démocratique, plus de 400 millions d'habitants. Et toutes ces personnes seront appelées à voter le 9 juin prochain.
Est-ce qu'on peut considérer que l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est une institution, vraiment, c'est un bébé au niveau de son âge par rapport aux autres empires, aux autres fédérations, aux autres unions internationaux?
Vas-y. Un bébé, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une construction qui est récente,
inédite.
Inédite, et c'est vrai que c'est une expérimentation assez incroyable à l'échelle d'un continent qui s'est tant fait la guerre pendant tant d'années, notamment qui s'est basé sur le couple franco-allemand, les ennemis vraiment fratricides. Et donc, ça avance progressivement, pour certains trop lentement, pour certains trop vite. Mais en tout cas, on avance vers l'intégration et la construction de cet espace.
Avec une série de crises qu'il faut parfois surmonter et qui font avancer cette construction.
Mais alors, les crises peuvent être longues, mais elles sont souvent génératrices de nouveautés.
On a parlé de crise, je parlais de crise. Il y a eu une crise en fait, qui fait qu'un des membres qui était dans l'Union européenne a l'a quitté, c'est le Brexit en 2016.
Est-ce qu'on a du recul nécessaire? Parlons rapidement du Brexit. Est-ce qu'on a le recul nécessaire pour savoir quels sont les effets concrets pour la population anglaise? J'ai l'impression, de ce que j'en lis, même si je m'y intéresse que de loin aux effets du Brexit, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été quand même un mouvement, une action qui a été positive pour la population anglaise et la politique anglaise.
C'est très nuancé, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de recul sur le plan économique. L'immigration qui devait être stoppée, en fait, elle est relayée maintenant par de l'immigration extra-européenne parce qu'ils ont quand même besoin de main-d'œuvre. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, puis il y a très concrètement, par exemple, des coopérations culturelles qui se sont arrêtées plus ou moins du jour au lendemain. On peut penser à Erasmus, par exemple, où voilà, les étudiants britanniques, ils n'ont plus accès aux universités européennes de la même façon.
Et vice-versa.
Ça, c'est très concret. Ouais.
Est-ce qu'on peut rappeler le mode de fonctionnement de l'Union européenne, sa gouvernance, et puis le poids de chaque pays, comment chaque pays est représenté au sein de l'institution? Martin.
Une vaste question, ouais. C'est difficile d'être très synthétique. Mais ce qu'on peut peut-être retenir pour simplifier, c'est que on parle du triangle institutionnel pour qualifier le fonctionnement des institutions, avec trois institutions principales. On va avoir la Commission européenne qui va représenter l'intérêt général européen. On va avoir le Parlement européen qui va représenter les citoyens et les citoyennes européennes. Et on va avoir le Conseil qui représente les États membres.
Le Conseil de l'Union européenne.
Voilà. Pour synthétiser, pour simplifier, je n'entre pas dans les détails, mais voilà, c'est trois institutions, Conseil, Parlement, Commission.
Et alors, les députés qu'on élit au mois de juin tous les cinq ans, ils vont dans lequel de ces trois points du triangle?
Ils vont dans le Parlement.
Ok.
ils étaient 705, ils seront 720 lors de la prochaine législature.
Pourquoi?
Pourquoi
Pourquoi ils seront 15 de plus? Bonne question.
Ok. Je ne sais pas. Par rapport à la population.
Une réponse assurée peut-être, ouais, avec l'augmentation de la population européenne,
plus
proportionnellement.
Plus de représentativité proportionnelle. Ok.
Ouais. Et chaque État a un nombre proportionnel à sa population de nombre de députés. Hein. Ceux qui en ont le plus sont les Allemands. La France est tout juste derrière, avec la Pologne, qui n'est pas loin non plus. Voilà.
Et alors combien
ça tombe à 6 pour les plus petits États, comme Malte, par exemple.
Alors quel poids ont ces petits pays dans la gouvernance? Dans le fonctionnement de l'institution européenne, est-ce que leur voix, même à 6, compte autant que la France qui en a 71 potentiellement,
c'est
ça?
Mathématiquement, voilà, ils ont moins de députés, ils ont moins de poids, parce que par exemple, quand il y a des votes qui ont lieu au niveau du Conseil, donc entre les États membres, il y a un vote à la majorité qualifiée, il y a différentes procédures de vote, et parfois c'est pondéré en fonction du nombre d'habitants. Un pays va avoir plus de poids dans le vote s'il a plus d'habitants.
Mmh. Bon, pour autant, c'est pas très égalitaire, ça.
C'est proportionnel nombre d'habitants.
Ouais. La majorité qualifiée, c'est qu'il faut que ça représente, la majorité représente 55% des États et 65% de la population. Mmh. Donc ça bloque un tout petit peu la minorité de blocage que pourraient représenter les tout petits États.
Voilà. Ils ont quand même, par exemple, un commissaire européen.
Oui.
Donc, il y a la Commission européenne. Donc, en ce moment, c'est une présidente de la Commission européenne. Ensuite, il y a des commissaires européens thématiques. C'est un peu comme des ministres pour chaque thématique. Et même les plus petits États ont un représentant qui est commissaire européen.
Est-ce que dans certaines institutions de ces trois points du triangle, un pays égale une voix? Est-ce que ça existe quelque part dans l'Union européenne, ou c'est vraiment à chaque fois le nombre de députés et la proportionnelle qui joue et qui permet de faire voter les lois, de voter les directives européennes?
Disons que peut-être qu'il y a aussi cette construction autour du consensus à laquelle on n'est pas très habitué en France. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait du triangle institutionnel, c'est vrai qu'on a trois institutions qui essayent de trouver un consensus pour proposer des directives ou des règlements qui sont pour simplifier les lois européennes. C'est peut-être à ça qu'il faut penser aussi, comment on construit le consensus à l'échelle européenne entre pays très différents, des personnes qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même histoire,
je
la même culture 24 politique.
24 langues différentes sur 27 ouais. pays, donc ouais. Effectivement, c'est sûr que c'est
compliqué. Je crois qu'au départ, la Commission européenne donne quelque part des pistes de règlement ou de directives qui sont ensuite discutées dans différentes commissions du Parlement. Et ensuite discuter également dans le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union européenne. Et à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Avec les trois institutions peuvent se rencontrer dans ce qu'on appelle un trilogue. Et là, ils discutent, ils essayent de voir comment s'accorder, trouver le moment de consensus et qui va parfois au-delà des positionnements idéologiques. Hein. Ça peut être aussi de la stratégie. Je fais passer telle motion, telle directive, mais en retour, j'aurai ta voix pour mon autre directive à laquelle je tiens beaucoup. Et voilà, on le voit très bien de façon un petit peu pastichée mais et humoristique dans Parlement, la série dont on parlera peut-être.
Dont on aura l'occasion de reparler, on y reviendra en fin d'émission, Jean-Marie. J'ai l'impression, alors je ne veux pas faire mon éditorial qui parle pour l'ensemble des Français, mais en tout cas ma vision, et je pense qu'elle est relativement partagée, c'est que l'Union européenne, c'est à la fois un gros paquebot un peu inamovible et de ce que je peux voir des images du Parlement européen, une fourmilière ultra vivante qui fourmille, pour la répétition, d'idées, d'initiatives, de personnes engagées dans une quantité incroyable de sujets engagés sur des discussions qui sont sur évidemment tous les sujets qui concernent la société. Comment est-ce que déjà cette image à la fois d'une institution complètement énorme et parfois un peu brumeuse pour le commun des mortels, et en même temps une fourmilière, je reprends l'expression, elle est un peu réelle pour peut-être toi Martin qui la connaît d'un peu près, qui l'a vue.
Alors fourmilière, oui, c'est vrai que c'est l'image, elle est réelle, c'est vrai que quand on va à Bruxelles, il y a le quartier européen. Et voilà, ça grouille de députés, d'assistants.
Parce qu'un député est accompagné d'un, deux, trois assistants, voilà. Des conseillers, il y a les lobbyistes.
Il y a les lobbyistes, les fonctionnaires européens, il y a la presse européenne, les journalistes qui ont leurs envoyés spéciaux à Bruxelles, plein de représentants d'intérêts. On parlait des langues, il y a aussi plein de traducteurs à Bruxelles, forcément, puisque tout est traduit en simultané, ça grouille.
Et donc sur l'image de ce bateau
Il y a souvent l'image un peu négative de dire que c'est la bureaucratie bruxelloise. Oui. En fait, souvent j'entends l'argument comme quoi cette bureaucratie, elle n'est pas si énorme que ça quand on la compare, par exemple, à la bureaucratie de la mairie de Paris, en nombre de fonctionnaires. Okay. Voilà, il y a des fonctionnaires, mais c'est vrai que ça fait fonctionner ces 27 autour. Et c'est assez lent à mouvoir parce que, quand on, par exemple, lancer une directive ou voter, par exemple, un pacte comme le pacte migratoire qu'on vient d'entendre être voté, là, ça a pris 4 ans et demi, par exemple.
Et on dit souvent que les politiques publiques européennes, ce sont les meilleures politiques publiques du monde parce que, justement, il y a beaucoup de gens pour les penser très en amont, faire un état des lieux, des études d'impact, des diagnostics, ensuite de très longues discussions dans les trilogues entre les institutions, avec les États membres, les eurodéputés. Et donc, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'à la fin, normalement, on a des politiques publiques de qualité. Alors, on les approuve, on ne les approuve pas. Elles peuvent paraître lointaines, déconnectées. Mais en tout cas, elles ont été pensées et normalement bien pensées.
Je voudrais quand même apporter un correctif sur cette lenteur. Dans le cas d'une crise comme celle du Covid-19, l'Union européenne a été remarquable dans sa rapidité de réaction sur le plan vaccinal. Enfin, je ne sais pas si vous me contredirez, mais la mise en place, d'ailleurs, à l'actif du commissaire Thierry Breton, je crois qu'il a managé en tout cas cet aspect, l'achat coordonné des vaccins pour les mettre à la disposition des citoyens européens a fait que, en fin 2021, 80% des citoyens européens avaient eu au moins une injection de dose, c'est ce que j'ai pu lire quelque part. Et donc, voilà, en cas de crise, il y a quand même une capacité de mobilisation, de réaction, et on l'a vu aussi, et on peut en reparler avec vous, au niveau de la crise ukrainienne.
pour décider des sanctions communes contre la Russie. Ça a été très vite aussi.
Exactement.
On fait une pause musicale. Azef, on aime la musique. Et en matière culturelle, l'événement le plus visible, le plus rassembleur et aussi le plus kitsch, il faut le bien dire, en termes d'Europe, c'est l'Eurovision, créé en 1956 aussi, hein, dans une volonté de partage et de communion. Et ici, Azef, parmi les 70 Françaises et Français qui se sont succédés pour chanter à l'Eurovision, eh ben, nos préférés, c'est plutôt cela. À tout de suite.
I remember jolie demoiselle, sur la summer nous la tour Eiffel. I remember comme tout était belle, so beautiful with your sac Chanel sur le pont de la Seine. Let's do it again, 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 again. You gave me a rendez-vous, what is it, what is it? Je le cherchais à toi, dans les rues. Je ne suis pas venu car tu ne l'es plus. Je le regarde partout, where are you? My heart is bleeding, oh I miss you. L'amour à la française, let's do it again, 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 again. You give me a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à flos. L'amour, 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 je suis perdu. Here we got you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, I can't sit sous la pluie. I feel so rich and Champs-Élysées. Alone, la nuit, le Moulin Rouge. I feel guilty. I remember nous la tour Eiffel. So beautiful with your sac Chanel. L'amour à la française, c'est que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you a rendez-vous. Et je cours, je cours, je cours à flos. L'amour, 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 je suis perdu. Here we got you and I'm crazy. Cela, Paris, je tout le manque. Sans toi, à guerre sous la pluie. I feel so rich Champs-Élysées. Alone, la nuit, le Moulin Rouge. I feel guilty et le soleil est plus brûlant que les oiseaux. Et dans le ciel, la miss you so. Un souvenir, un rendez-vous. Des fleurs, des fleurs, des fleurs for you. Je tout le manque sans toi, I can't.
Arrivé avant-dernier en 2007 à l'Eurovision, évidemment, c'est ça la France qu'on aime, les Fatal Picard, l'amour à la française. Voilà, on a dû faire quelques soirées avec les Fatal Picard, Martin, il y a longtemps maintenant. Évidemment, j'ai passé ce morceau parce que l'Eurovision peut-être considéré comme étant partie du soft power, on appelle ça européen. Et donc, dans le cadre de notre recommandation hebdomadaire dans la lorgnette, où l'on vous conseille un film, un documentaire, un reportage ou un podcast lié à la thématique qui nous occupe chaque jour, chaque semaine dans la lorgnette, je vous propose ce petit documentaire. Cédric Clapiche revient sur la folle histoire de l'auberge espagnole pour un module de Combini. On écoute.
Bonjour, je suis Cédric Clapiche, je suis le réalisateur de l'Auberge Espagnole et de tous les films qui ont suivi derrière, et je vais vous raconter cette folle histoire-là. L'Auberge Espagnole, en fait, je crois que Erasmus existait depuis 7 ans, et je me souviens que juste au moment de la sortie de l'Auberge Espagnole, ils ont fêté le 1000e étudiant Erasmus. Et donc, quand on tournait, personne connaissait le mot. En fait, il n'y avait que les étudiants Erasmus qui connaissaient le programme, mais sinon, les gens du grand public, ils ne savaient pas ce que c'était le programme Erasmus.
Erasmus ?
Ouais. L'autre influence, c'est ma sœur qui a 7 ans de moins que moi. J'ai été la voir à Barcelone, elle partageait un appartement avec 5 personnes qui chacun parlait une langue différente, et je me suis beaucoup inspiré de son appartement pour écrire l'Auberge Espagnole. Le scénario a continué de s'écrire pendant la préparation, les repérages à Barcelone et pendant le casting. En fait, le casting était une façon de continuer à écrire. Du coup, j'inventais des choses en fonction des acteurs ou des actrices que je trouvais. Alors oui, il y avait une grande ambiance de fête. C'était pas vraiment volontaire. C'était que si vous mettez, je crois qu'ils étaient entre 10 et 12 personnes du même âge, genre 25 ans, qui viennent chacun d'un pays différent, assez rapidement, ça part en fête, quoi. Donc, en plus à Barcelone, en plus il faisait beau, il y a tout de suite un côté convivial, collectif. Et donc, c'était un peu difficile de les arrêter. C'était le contraire. C'était qu'il y a des fois, il fallait leur dire, c'était un peu une colonie de vacances, quoi. Il y a eu pas mal de scènes qui sont inspirées de ce qu'on vivait le soir quand on allait au restaurant et qu'ils faisaient tous les cons. Le lendemain, bizarrement, on tournait ça, quoi. C'est pas tout de suite qu'on comprend ce qui s'est passé, en fait. C'est aussi la sortie internationale. On a compris qu'il y avait un truc qui se passait autour de ce film qui était un peu surnaturel. Et c'était bizarre. J'ai eu l'impression, c'était pas tellement la qualité du film, je trouve. C'était vraiment le fait qu'il tombait au bon moment. Il y avait une espèce de concordance avec les gens d'Europe. Les jeunes d'Europe, il y avait quelque chose qui faisait que c'était le film qui tombait bien, quoi. Le chiffre qu'on m'a donné, c'est qu'il y a eu deux fois plus de demandes d'étudiants Erasmus l'année après l'Auberge espagnole en France. Je crois qu'il est sorti dans une cinquantaine de pays, ce qui était énorme à l'époque. Et du coup, oui, il a été beaucoup vu ailleurs. Et ça m'est arrivé encore cette semaine. J'étais à Lille, puis à Bruxelles, à la Commission européenne à Bruxelles, où des gens m'arrêtent et me disent « c'est à cause de vous que j'ai fait Erasmus », qui travaille actuellement au Parlement européen. Le truc est assez fou à quel point ce film a servi de publicité pour que les gens partent en voyage en Erasmus. Il y a une fois un couple qui m'a arrêté dans la rue, je crois qu'elle était italienne et son mari était suédois et ils avaient un enfant dans une poussette qui avait 1 ou 2 ans. Et ils m'ont dit « cet enfant c'est à cause de vous ». Et donc ils se sont rencontrés en Erasmus, ils ont eu un enfant et ils avaient tous les deux été voir l'Auberge espagnole et ils étaient partis en Erasmus à cause du film. Et c'est un peu bizarre quand on entend cette phrase-là, quoi. C'est-à-dire que c'est... Enfin, encore aujourd'hui, ça me donne des frissons.
Voilà pour ce petit cours de Combini. Donc j'espère que ça parle au cinéphile que vous êtes, Jean-Marie.
Ça parle au cinéphile, ça parle aussi
à l'européen.
À l'européen. Je voudrais juste rappeler un point d'histoire. C'est Jacques Delors, à l'époque où il était président de la Commission européenne, qui a lancé Erasmus, qui a validé Erasmus avec évidemment l'accord évidemment des différentes institutions. Mais à l'origine, c'est une femme qui avait lancé l'idée, qui s'appelait Sofia Corradi, une Italienne. Voilà.
J'en profite pour rappeler que on parle beaucoup d'immigration, mais que la principale immigration européenne sont une des principales immigrations européennes sont celles des étudiants et notamment dans le cadre de ce dispositif qui est Erasmus.
J'ai lu que aujourd'hui on compte plus de 10 millions de personnes ayant bénéficié d'un Erasmus.
Martin, sur Erasmus, tu voulais rajouter quelque chose ?
Moi, ça me évoque forcément des souvenirs de mon propre Erasmus et puis forcément tout ce qui est dit, les couples Erasmus, les bébés Erasmus, les carrières européennes ou à l'étranger qui sont nés par Erasmus, ça me parle. Et c'est vrai que c'est vraiment une réalisation concrète dont l'Europe peut être fière après toutes ces années. C'est vraiment un des succès. Et d'ailleurs, Erasmus continue. Erasmus s'élargit. Maintenant, on peut faire un apprentissage Erasmus. C'est pas forcément dans une fac. Donc ça, c'est vraiment une réalisation concrète et positive européenne.
Et je parlais du soft power avec l'Eurovision, mais on voit que l'Auberge espagnole a essaimé dans toute l'Europe et même un peu plus loin, et qu'il a contribué à populariser ce dispositif qui existe depuis 15 ans.
Et puis au-delà d'Erasmus, l'Europe a créé aussi des corps de volontaires de services de solidarité européenne, qui est aussi une autre façon de voyager, de se former au contact des autres.
Donc on le voit, l'Europe est aussi prescriptrice et envoie et fait, donc contribue au soft power. Quel pouvoir maintenant, élargissant justement, quel pouvoir a l'UE sur la géopolitique mondiale et notamment face aux trois empires états-uniens, chinois et russes, quels sont les rapports de force d'aujourd'hui de cette institution européenne ?
C'est une vaste question.
Ouais, je sais.
C'est vrai que face à ces puissances, quand on évoque la Russie, la Chine, les États-Unis, on est forcément plus fort à plusieurs. Donc rien que pour ça, l'Union européenne a du sens, qu'elle représente plus de 400 millions d'habitants. Puis c'est des pays qui ont des valeurs communes, qui, enfin, à l'échelle géopolitique, si on les regarde, ils sont tout petits hein, en termes de superficie. Donc si on veut peser sur certains des grands défis du 21e siècle, il faut s'unir et c'est aussi ça le sens de l'UE.
Jean-Marie ?
Oui, je pense par exemple sur le plan de l'innovation, l'UE par exemple a une politique aujourd'hui pour s'adapter aux enjeux du numérique qui essaye de faire la pièce, si vous voulez, à la concurrence chinoise ou la concurrence américaine. Hein. Et, bon, je ne suis pas un expert de toutes ces questions numériques, mais je sais que, par exemple, sur la cybercriminalité, sur la régulation de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a un enjeu et l'Union européenne, par ses capacités d'innovation, ses chercheurs, ses capacités d'investissement dans ce domaine, est capable peut-être de faire pièce et de contrer un peu l'influence des GAFA, par exemple. On sait que j'ai lu récemment un article sur Thierry Breton, ça fait partie des missions qu'il avait, lui, avec sa fonction de commissaire au marché intérieur et à plein d'autres choses, à l'innovation, justement, pour essayer d'encadrer un petit peu les TikTok et autres GAFAM.
Alors elle a le pouvoir et tant mieux, elle peut encadrer et protéger à ce titre-là les citoyens et citoyennes européens, mais on a l'impression qu'elle a du mal à être motrice et initiatrice de projets parce que bouger à 27, après, c'est plus difficile quand les Russes et les Chinois ou les Américains bougent tout seuls.
On évoquait la question économique ou d'innovation, mais la faiblesse aujourd'hui géopolitique, c'est sur le plan de la politique étrangère et la politique de défense. Politique étrangère, on a bien sûr un haut représentant à la politique étrangère qui existe, mais celui-ci n'arrive pas vraiment à avoir une voix qui porte parce que les pays sont très divisés sur la politique étrangère et puis sur le problème de la défense. Je ne sais pas si vous voulez en parler, c'est compliqué. On est essentiellement lié à l'OTAN et donc ça pose un gros problème de savoir si l'OTAN est capable aussi de protéger l'Union européenne.
Martin ?
Oui, c'est vrai que pour revenir sur la politique étrangère de l'Union européenne, c'est l'une des politiques qui est la plus récente. C'est vrai qu'on a commencé par l'économie, par le marché intérieur, et depuis les années 90, il y a ce qu'on appelle la PESC, la politique européenne de sécurité commune, qui est née. Vous avez cité le haut représentant pour la politique étrangère, mais c'est quand même un peu le précaré des États membres. Et c'est des États membres qui ont des aires d'influence historiques différentes, qui ont des cultures diplomatiques différentes, qui ont des partenariats privilégiés différents. Et coordonner tout ça à 27, c'est vrai que c'est plus compliqué, et ça fait seulement une vingtaine d'années que l'Europe vraiment s'y efforce. Et les crises, et si on prend la guerre en Ukraine, des fois, ça fait des accélérateurs de mise en commun d'une telle politique. Et donc, ça peut servir.
Sur l'Ukraine, quelle est on voit bien la limite de l'Union européenne à s'entendre et à être efficace dans la protection d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais face à un ennemi russe qui parfois peut être un allié, mais trop d'enjeux économiques, politiques empêchent d'être vraiment efficace, j'ai l'impression.
Je sais pas si c'est pas inefficace. Hein. Je pense que, par exemple, l'aide militaire, il y a eu des progrès, il y a de plus en plus de consensus autour d'une aide militaire. Alors après, il y a des saillies de notre président qui font pas du tout consensus, comme s'il faisait des ballons d'essai. Mais et c'est vrai que peut-être vous pouvez en parler. On est au cœur aussi d'une grande problématique qui fait fonctionner l'Europe, c'est la relation franco-allemande. Or, depuis quelque temps, la relation franco-allemande est compliquée. Elle trouve un certain nombre d'aspérités. Les deux hommes, Olaf Scholz d'un côté et Emmanuel Macron, ne semblent pas avoir des atomes très crochus, on va dire, entre eux. Il y a beaucoup de sujets de divergence. Et en particulier sur l'Ukraine, il y en a qui se sont affirmés.
Et est-ce que... je te laisse la parole, Martin, après. Et est-ce que si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas très bien, si la France et l'Allemagne s'enrhument, est-ce que c'est toute l'Europe qui tousse pour reprendre une expression bien connue?
De mon point de vue, oui.
Ouais.
C'est vrai que si le couple franco-allemand ne fonctionne pas, l'Europe, elle est quand même un peu en panne. Rien que si on additionne le nombre d'habitants de ces deux pays, c'est vrai qu'on a le cœur de l'Europe, il est là. Et puis symboliquement, c'est toujours ce couple qui a fait avancer l'Europe. Là, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, c'est pas l'entente la plus visible parmi tous les couples franco-allemands qu'on a pu connaître. Après, il y a des changements quand même. L'Allemagne qui, de par son histoire, elle avait une doctrine très pacifiste. C'était très compliqué. Enfin, c'était même voire impossible que l'armée allemande intervienne hors de ses frontières. En fait, ça a longtemps été impossible. Et progressivement, il y a un changement de doctrine en Allemagne par rapport à ça. Et la guerre en Ukraine, elle y a servi. Et donc, les Allemands avancent sur, par exemple, la part du PIB qui est consacrée à la défense. Ils veulent avancer. Et c'est un des enjeux, notamment de ces prochaines élections européennes, c'est la question de la défense européenne. Est-ce qu'on va vers une défense plus autonome? Le président français parle d'autonomie stratégique. Certains sont encore très attachés à l'OTAN, notamment l'Allemagne ou des pays de l'Europe du Nord ou d'Europe centrale et de l'Est. Donc il y a des divergences de vision. La France a toujours été un peu plus indépendante hein, par rapport aux États-Unis et à l'OTAN. Ça, ça peut bloquer, mais on avance et la crise ukrainienne y aide.
Si on va avancer, je vois que l'heure tourne. S'il y a un mot qu'on associe très vite à l'Union européenne, c'est le mot lobby. Est-ce qu'on peut les définir et peut-être les recontextualiser? Parce que le mot lobby est souvent considéré comme un vilain mot, mais il joue pour le meilleur et pour le pire, je crois.
Vous avez dû en croiser, Martin.
Ah oui, bah c'est même un domaine professionnel où voilà, on peut atterrir.
On est lobbyiste, en fait.
Voilà, on peut être lobbyiste. C'est vrai que faire du lobbying, c'est représenter un intérêt. Et c'est souvent associé, enfin voilà, comme tu as pu le dire Thomas, un gros mot, alors que c'est vrai que représenter un intérêt, bon, on peut représenter les intérêts d'un secteur économique, mais on peut aussi représenter l'intérêt général en défendant des politiques au service de la santé, au service du climat, au service d'une bonne alimentation. Et donc il y a toutes sortes de lobbies, toutes sortes d'associations qui représentent des intérêts divergents et qui essayent d'influencer le processus décisionnel européen. Alors certains verront ça positivement, certains négativement, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bruxelles, il y a quasiment autant de lobbyistes qu'à Washington. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dont le métier, c'est de faire du lobbying. Ça prend plein de formes très différentes. En fonction de qui on représente, on va avoir un répertoire d'actions qui va varier. Ça peut être plutôt faire des happenings pour dénoncer le comportement d'une grande multinationale et puis demander une législation plus contraignante. Ou alors ça va être, peut-être quand on est cette multinationale, travailler un peu plus en sous-main, un peu plus discret, de rencontrer avec les députés, donner des argumentaires, des éléments de langage, des amendements déjà rédigés. Donc c'est vraiment un fonctionnement un peu opaque. Mais il y a un travail de transparence qui est fait à Bruxelles. En tout cas, il y a des systèmes de représentation d'intérêts de la transparence, justement un lobby de la transparence qui essaye de rendre les autres lobbies
plus transparents. Vous êtes censé vous déclarer aussi comme lobby.
Voilà.
Vous êtes député, vous devez
donc
déclarer.
Donc il y a un lobby de contrôle des lobbies, en fait.
Oui. Okay. On peut dire ça comme ça.
Si vous êtes député, je crois que vous devez déclarer avec qui vous avez déjeuné. La question des cadeaux aussi, elle est supervisée. Hein.
Oui. Ouais, ok.
Alors, on voit aussi ces lobbies parfois font avancer la cause. Alors, par exemple, sur le climat, on est face à des confrontations de lobbies très fortes. Vous évoquiez les protestations.
C'est souvent sur les questions environnementales et climatiques.
Environnementales,
on entend parler des lobbies
et
pas dans le bon sens d'ailleurs.
Les lobbies revenir en force contre le Green Deal, le fameux plan d'action pour contre le réchauffement climatique, hein, pour préserver l'environnement. On a vu par exemple la directive concernant la restructuration de la nature, la préservation de la nature, qui a été amendée, diminuée. Des fois, on est triste de voir que effectivement les différentes institutions sont sensibles à des lobbies sur lesquels nous on n'est pas du tout favorables. Vous voyez, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire que je rejette l'Europe, mais je trouve que parfois, l'Europe, elle est trop sensible à des lobbies pro-industriels. Alors, le lobby agricole, c'est très compliqué, mais il y a certains lobbies agricoles qui font effectivement revenir en arrière sur tout ce qui avait été prévu par le Green Deal. Pour moi, ça me désole, mais bon, ça, c'est ma sensibilité politique qui s'exprime.
Il nous reste moins de 10 minutes. On va parler des élections à venir, évidemment. Scrutin, évidemment, j'ai travaillé, écoutez, que voulez-vous. Et des députés européens et du prochain scrutin, à quoi sert un député européen qu'on élit ici à Blois ou ailleurs pour ceux qui nous écoutent? Mais voilà, le député que je vais élire peut-être ici et la liste pour laquelle je vais voter, puisque ça fonctionne par liste, à quoi vont-ils servir une fois que je les aurai envoyés à Bruxelles?
Ah, et à Strasbourg.
Mais il ne faut pas trop qu'on aille sur ce terrain-là, c'est un peu compliqué.
Pour un Français, c'est quand même fondamental, c'est mythique, hein, Strasbourg.
Le ou la députée, il aura effectivement plusieurs lieux de travail. Il aura Bruxelles, il aura Strasbourg, et puis il aura son territoire. Et comme ils sont élus à l'échelle d'un pays, en France en tout cas, sa circonscription, ce sera toute la France. Donc déjà en termes d'échelle géographique, il aura à voyager, ce député. Et son rôle, donc, ça sera principalement de voter et d'amender ce qu'on appelle les lois européennes, c'est-à-dire les directives et les règlements, de les travailler en amont dans le cadre de commissions thématiques, puisque chaque eurodéputé doit siéger dans au moins une commission thématique. Donc ça peut être la commission agriculture, la commission transport. Les députés européens également, ils approuvent le budget de l'Union européenne. Ils contrôlent la Commission européenne, on va dire l'équivalent d'un gouvernement européen. Donc l'action des commissaires, ils vont notamment au tout début du mandat auditionner les commissaires et puis voter pour ou contre leur désignation. Donc grosso modo, c'est ça l'activité parlementaire d'un député. Et puis bien sûr, il sera à l'écoute des citoyens, des citoyennes de son territoire, à l'écoute des entreprises, des associations de son territoire, qui sont aussi entre guillemets des représentants d'intérêts, des lobbies. Et il fera la part des choses, voilà, pour exercer son mandat en fonction, voilà, du programme sur lequel il a été élu. Et il aura un quotidien partagé entre Bruxelles, Strasbourg et sa circonscription.
Parce qu'il faut bien rappeler que les députés sont élus sur des listes d'appartenance politique. Ils défendent un certain nombre de positions, soit de gauche, soit de centre, soit de droite, hein, voilà, et donc voire d'extrême droite. Et voilà, en fonction, avec à chaque fois une vision du fonctionnement de l'Europe qui peut être très très différente. Hein. Je vois par exemple les députés qui pourraient siéger à l'extrême droite pourraient influencer de façon très forte certains fonctionnements de l'Union européenne d'aujourd'hui, par exemple sur la libre circulation, sur la politique migratoire, même si aujourd'hui on a voté un pacte migratoire qui est une sorte de consensus mou, on va dire, entre les différentes idéologies. Voilà, et donc, par exemple, sur l'aspect environnemental, c'est évident que si... l'extrême droite venait à être très, très prédominante, qui est assez eurosceptique. Les avancées qui ont eu lieu dans cette législature sur...
Où les écologistes et les Verts étaient
alors,
plutôt
oui,
en
force. Alors oui, il
n'y
a pas que les écologistes. Hein, oui, je veux dire, il y a aussi Renew, il y a aussi les sociodémocrates qui ont voté pour les politiques environnementales seraient détricotées fatalement. Donc voilà, bon, moi, c'est sûr que là, on peut faire parler notre propre sensibilité politique. Mais bon, voilà, je n'impose rien,
on touche à la fin de l'émission qui est passionnante et je le rappelais, donc c'est un cycle d'émissions, donc on aura l'occasion de reparler de l'Europe et des enjeux du scrutin. Une dernière question quand même, vous parliez Jean-Marie des nationalistes justement qui sont farouchement, quel que soit leur pays d'origine, opposés, en tout cas très sceptiques, eurosceptiques on les appelle. Est-ce que de faire campagne pour les Européennes, c'est dans l'idée de démolir, de déconstruire l'Union Européenne de l'intérieur? Est-ce que c'est dans cette volonté-là qu'ils s'inscrivent dans la campagne des Européennes, Martin ou Jean-Marie?
Ouais. Martin.
C'est la démocratie, donc voilà. Chaque candidat, chaque parti politique défend son programme européen. Il y a souvent, pour simplifier, on va dire les fédéralistes européens qui veulent plus d'intégration, et puis de l'autre, ceux qui sont plus partisans de l'Europe des nations, donc plutôt se limiter à une coopération sans déléguer de souveraineté à Bruxelles. Donc c'est toujours un petit peu ces deux visions qui s'affrontent. Et puis là, elles sont... Enfin, elle se cristallise autour de certains enjeux, la guerre en Ukraine, l'Europe de la défense, le pacte vert, le Green Deal aussi qui fait beaucoup parler, des sujets sur les transports, sur le climat aussi qui comptent beaucoup. Et peut-être... Ouais.
Ce qui est notable, c'est que la thématique de la sortie de l'Union européenne n'est pas du tout présente dans ces élections.
Elle l'a été
elle
sur
a
le précédent scrutin.
Oui, tout à fait. Il y avait eu le Brexit.
Voilà, les sorties de l'Union européenne ne sont plus du
tout
la sortie
de l'euro. Quasiment jamais évoqué. D'une certaine façon, là, c'est un acquis, quelque part, l'euro.
Sur lequel on n'a pas forcément envie de revenir, même les nationalistes. Voilà. Eh bien, on termine. Martin, on en parlait pour préparer l'émission. Il nous semble, ici à ZEF, nécessaire de rappeler la date butoir pour s'inscrire sur les listes européennes.
Oui, alors si je ne me trompe pas, c'est le 3 mai pour s'inscrire sur les listes électorales ou vérifier si vous n'êtes pas sûr, mais très important pour pouvoir voter le dimanche 9 juin.
Voilà. Voilà, et donc Jean-Marie,
l'actualité.
Exactement, l'actualité d'Europe Ensemble, puisque nous serons, Studio ZEF suivra vraisemblablement la venue de la productrice de la série Parlement.
Donc voilà, une série qui a été créée en 2020, qui a connu déjà 3 saisons, une quatrième est en tournage, tournée à Strasbourg, au sein même du Parlement européen.
Martin la conseille, je crois, d'ailleurs.
Des personnages très attachants et très drôles, avec évidemment, sans trop langue de bois, on voit comment fonctionne le mécanisme européen, avec des des personnages aussi très typés, très, avec évidemment quelque part des stéréotypes qu'on peut attendre de voir le hollandais ou le allemand caricaturé ou l'italien, mais, et le français l'est particulièrement, je crois, mais ça fait du bien. Et je trouve que c'est en même temps une sorte de pédagogie par la fiction de créer un imaginaire européen. Le casting est très européen, c'est une série qu'on peut voir en version originale, évidemment, de façon préférentielle, en trois langues, il y a anglais, allemand et français.
Voilà. Et donc la productrice
sera, oui, elle sera là, elle viendra expliquer. Et je sais qu'il y a toute une campagne qui est menée actuellement, qui va être sur France Télévisions, à travers ces personnages de la série, pour amener les gens à voter, avec les différents spots qui seront également montrés lors de notre événement.
Et ce sera quand et où?
Le 22 avril, lundi, à 18h, à la Maison de Bégon.
À la Maison de Bégon, le 22 avril. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus donc, en studio pour parler d'Europe. On aura l'occasion sur Studio F d'y revenir d'ici au 9 juin. On se quitte, comme d'habitude, avec le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. Parle du défi agricole dans cet épisode. À 18h, c'est l'ami Christophe avec la Roxette. Martin, on passe le bonjour à la JC.
Ouais, bonjour.
Allez, bonjour à la JC pour ceux qui se reconnaîtront. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission et à très vite dans la lorgnette et les programmes continuent sur Studio F.
Bonjour Nicolas.
Salut Yael.
Nicolas, aujourd'hui on reçoit Marine Carasset. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine, t'es conseillère territoire à Biocentre.
Ouais.
Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on va parler un petit peu de pas mal d'éléments autour de l'agriculture et de l'eau. Ce sont tes sujets, j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Et y a de l'actu autour de l'agriculture. Les agriculteurs, ils sont en colère. D'abord, moi, j'aimerais bien savoir, Marine, ce que c'est que Biocentre. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Oui. Alors, Biocentre, c'est l'interprofession de la filière bio en région Centre-Val de Loire. Donc, en fait, on représente l'ensemble de la filière de l'amont à l'aval. Il y a 5 collèges représentatifs dans le conseil d'administration. Les producteurs, qui est le collège principal. Et ensuite, on a les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs aussi, et les institutionnels. Donc, des partenaires institutionnels type les chambres, la région, etc.
Alors, attends, dans les collèges, comment ils sont représentés dans Biocentre?
Eh bien, ils sont adhérents et ils participent au conseil d'administration et à l'assemblée générale.
Ok, d'accord.
Voilà.
Ah, c'est intéressant.
Et le but de Biocentre, c'est?
C'est le développement de la filière de l'agriculture biologique, voilà, à l'échelle régionale, avec 6 associations départementales qui sont les groupements d'agriculture biologique. Dans le Loir-et-Cher, c'est le GABLEC.
Et donc, on peut dire que toi, tu habites à Blois et que ta spécialité, c'est
l'agriculture et l'eau.
Attends, t'as dit quoi, le GABLEC, juste avant?
Le GABLEC. C'est le groupement d'agriculture biologique du Loir-et-Cher.
Ok.
GABLEC.
Ça va, c'est bon, je l'ai. Ok, d'accord. Je vois mieux qui est Biocentre. Nico, est-ce que tu peux continuer?
Ouais. non, mais tu lançais pourquoi les manifestations? Moi, je trouve que ça peut être une bonne entrée en matière pour faire connaissance, de connaître un peu les revendications des agriculteurs, sur quoi vous retrouvez, sur quoi vous retrouvez pas. Moi, je ressens, en tout cas par rapport au territoire, qu'il y a une résonance. Que la question, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur l'avenir de l'agriculture par rapport aux nombreuses personnes qui vont partir en retraite, qui n'ont pas forcément de repreneurs. Donc pourquoi cette crise de vocation? Peut-être que ça montre en tout cas une partie des raisons des crises de vocation dans le monde agricole. Et finalement, on a des mouvements, la FNSEA, mais aussi vous participez aux manifestations?
Alors, le réseau bio n'appelle pas directement à la manifestation, ses adhérents, en tout cas, pour l'instant. Par contre, effectivement, la Fédération nationale d'agriculture biologique, donc, qui est le chapeau national auquel adhère Biocentre, se retrouve dans un certain nombre de contestations. Effectivement, valide, notamment les questions de revenus, de partage de la valeur ajoutée de la production agricole, de volonté de territorialisation, mais ne partage pas les revendications sur l'allègement, voire la suppression de certaines contraintes environnementales. Le réseau bio, enfin la bio, a pour vocation de produire en agriculture, en protégeant les sols, la biodiversité, l'eau et le vivant en général, et donc n'appelle pas du tout à la suppression forcément des contraintes environnementales proposées par la Commission européenne sur l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse.
Ouais, moi, j'avoue me retrouver tout à fait là-dedans, dans le sens où aujourd'hui, sur notre territoire, on a des vrais problèmes de pollution d'eau.
À ce stade de l'enregistrement, je l'ai cafouillé un peu dans les chiffres que j'avais donnés pour illustrer les problématiques eau et intrants que l'on a sur le territoire d'Aglopolis. Je reprends donc rapidement ce passage pour vous donner des éléments plus précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes nos rivières, tous nos syndicats de bassins, donc le Causson, le Beuvron, le ruisseau d'Aimé, la Cisse, toutes nos eaux sont de mauvaise qualité pour cause de trop gros intrants principalement agricoles. On n'a pas une seule eau qui est dans un bon état chimique satisfaisant. Et puis avec les sécheresses, en plus de ça, les concentrations en pesticides augmentent. Et puis ça crée du coup de vraies problématiques pour réussir à faire de l'eau potable. Ce qu'il faut voir, c'est que ça touche aussi les nappes. Par exemple, la Fourmilière, qui est un captage à Courcheverny, on a eu des problèmes de pesticides avec une communication entre deux nappes. Donc ce captage est aujourd'hui encore ouvert parce qu'il permet de gérer des problèmes d'arsenic naturel. Mais dès que ces problèmes d'arsenic naturel auront été résolus, il faudra le fermer. On a des captages où on a dû faire des forages ou des connexions avec la Loire pour diluer les pesticides. Et à Averdon, sur le précédent mandat, en 2016, on a dû mettre un filtre à charbon pour traiter les pesticides pour un coût assez élevé. Et aujourd'hui, on doit encore réinvestir 750 000 euros tout de même pour diluer cette fois les nitrates, parce qu'on dépasse les seuils de nitrates autorisés sur Averdon. On est à 51 mg par litre de nitrates au 31 janvier 2024, quand la norme est de 50 mg par litre. Et donc on dépasse ces seuils, et pour résoudre le problème, on va dépenser 750 000 euros pour diluer l'eau du captage avec des eaux venues d'ailleurs, en passant par fossé, blois. Et on voit bien que c'est sans fin tout ça. C'est-à-dire que la dilution de l'eau, ça nous rend plus résilients, mais c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer le problème de trop d'apport en nitrate, de trop d'apport en pesticides, on garde un système agricole qui en apporte toujours plus et on dilue l'eau jusqu'au jour où ça ne passera plus. Et c'est bien là qu'on voit tout ce que Marine disait, c'est-à-dire que quand le gouvernement annonce la suppression du plan éco-phyto et facilite l'usage de la chimie dans les champs, on est à l'inverse de tout ce qu'il faudrait pour préserver une eau potable, payée par tous les citoyens, parce que l'eau paye l'eau, c'est chacun qui, à sa facture, paye l'eau. Et voilà, au lieu de financer un juste revenu pour les agriculteurs, avec les moyens de s'en sortir décemment, tout en favorisant des changements de pratiques agricoles.
On vient de valider pour 500 000 euros une interconnexion, c'est-à-dire qu'on va connecter des stations d'eau entre elles sur Averdon. Ça coûte 500 000 euros pour faire cette connexion, et l'idée c'est de pouvoir diluer les polluants pour pouvoir continuer de produire de l'eau potable, et aussi en période de sécheresse de réussir à continuer d'avoir de l'eau. Donc ça montre que l'enjeu environnemental est là et qu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Sinon, je pense qu'on se sacrifie notre capacité d'eau, qui est aussi importante que la capacité à produire de l'alimentation, pour les citoyens comme pour les agriculteurs. Pour autant, j'entends les colères. Je le disais, hein, je pense que sur le partage de la valeur, notamment, comme le disait Marine, on a un vrai sujet. Aujourd'hui, on a une baisse de la rémunération des agriculteurs, alors qu'on a une hausse en magasin pour les consommateurs du coût d'achat des produits. Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a une partie de la marge qui est faite et par les transformateurs et par les distributeurs qui part là sur ces entreprises qui vont très bien. Donc il y a des sujets, voilà, mais à mon avis, ils se situent plutôt à ce niveau-là, et notamment sur la question de la loi Egalim. Peut-être que Marine, tu connais mieux la loi Egalim que moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que cette loi Egalim dont il demande aussi un meilleur respect?
Ouais. Alors, les lois Egalim, il y en a plusieurs. Mais le principe fondamental des lois Egalim, effectivement, c'est le partage de la valeur sur la production agricole. C'est-à-dire que l'État a écrit noir sur blanc dans la loi que la vente des produits agricoles doit être rémunératrice pour les producteurs, donc pour le maillon numéro 1, en fait, de la chaîne. Et que les transformateurs et les distributeurs doivent payer un prix minimal, qui est le prix de revient de la production agricole. On en entend parler depuis 2 ou 3 ans déjà, de ces problématiques de négociation entre les distributeurs et les transformateurs, les distributeurs et la profession agricole. Il faut bien comprendre qu'effectivement, il y a une volonté de tirer les prix vers le bas, derrière en fait un discours d'accessibilité à l'alimentation, et en disant que effectivement la population n'a plus les moyens d'accéder à une alimentation diversifiée et de qualité, et donc les distributeurs tirent les prix vers le bas. La réalité, elle est quand même pas forcément là, parce qu'on voit que des prix en vente directe sur des produits de qualité, je vais dire plutôt SIQO, donc signe de qualité type appellation d'origine contrôlée, bio, etc. En vente directe du consommateur, du producteur au consommateur plutôt, ne sont pas plus chers qu'en grande distribution, alors que les produits ne sont pas forcément français en grande distribution, n'ont pas de label de qualité. Donc la question, elle n'est pas, pas sur ce sujet-là, elle est plus vraiment concentrée sur le prix rémunérateur
Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Nous, sur le projet alimentaire territorial, dont le but est de travailler sur la qualité, mais aussi sur faciliter la vente directe et le modèle alimentaire localement, on se rend bien compte qu'on arrive à travailler avec les producteurs qui... Là, on travaille sur le syndicat de la CIS. Je pense qu'en fait, il y a une conscience des producteurs, même de tous les producteurs, qu'ils soient bio ou pas, sur la nécessité de changer de modèle. En tout cas, je le ressens. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont conventionnels qui viennent me dire qu'eux, ils sont prêts. Mais en fait, la colère vient souvent d'une injustice, notamment une des choses qui est remise en cause, c'est les traités de libre-échange qui font qu'on peut avoir une distorsion de concurrence, c'est-à-dire que eux, on va leur imposer un certain nombre de normes qu'on a mis en France, mais on importe d'Amérique du Sud ou d'ailleurs des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes environnementales, et donc ça, ce sentiment d'injustice de devoir se battre contre des gens qui en face vont pouvoir vendre moins cher parce qu'ils ont moins de contraintes. Mais la question qui se pose, c'est faut-il, nous, se mettre moins de contraintes au risque de scier la branche sur laquelle on est assis, notre accès à l'eau dont on a besoin aussi pour l'agriculture et autres, ou faut-il au contraire imposer aux pays qui veulent importer chez nous de respecter nos normes pour pouvoir importer?
Je pense que c'est important de reconnaître les efforts et les modifications de système qui ont pu être faits depuis les années 70 ou 80, où là, effectivement, au début de la chimie, il y a eu des abus et des pratiques qui n'étaient pas les bonnes pour l'environnement. Actuellement, les agriculteurs conventionnels, ils utilisent encore des produits avec des doses qui sont beaucoup moins importantes, avec des outils d'aide à la décision beaucoup plus précis qui permettent de mettre en place ces produits-là. Il y a des atteintes nécessaires, des objectifs nécessaires à atteindre pour la qualité de l'eau, pour la potabilité, en fait, juste pour qu'on puisse la boire. Et pour qu'on puisse la boire aussi à un coût raisonnable, parce que tout à l'heure tu parlais des investissements, mais pour la dépollution ou pour la reconnexion de certains forages, ça fait des coûts énormes, et c'est la société derrière qui les paye. C'est la personne lambda qui ouvre son robinet tous les jours pour boire, pour faire tourner sa machine à laver, etc. Donc c'est important aussi que tout ne peut pas reposer sur la profession agricole, mais elle a un rôle important.
Chacun a un rôle. Souvent, on me dit, oui, mais pour vendre, il me faut des filières et des débouchés, ce qui est une réalité. Il faut que le consommateur aussi accepte de pousser à prendre des produits de qualité. Mais quand dans la grande distribution, 90% des produits qui te sont proposés sont des produits ultra transformés et non pas de bonne qualité, qu'on réduit les rayons bio ou autres, ça, évidemment, la consommation n'est pas la même en fonction aussi de ce qu'on te présente, de ce qu'on valorise ou autre. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Voilà, après, moi, il y a des choses que je comprends, toutes ces colères, je les comprends. Pour autant, ce week-end, j'ai accompagné la Confédération Paysanne qui a symboliquement nettoyé le parvis de l'Office français de la biodiversité, c'est un peu le gendarme de l'environnement. Je dis bien symboliquement parce que quand on est arrivé, il avait en réalité déjà été nettoyé, mais on a fait cet acte symbolique pour montrer que oui, ils étaient agriculteurs, que oui, ils avaient ces colères-là, mais que pour autant, ils ne voulaient pas s'en prendre aux normes environnementales, justement, et aux gens qui les contrôlent. Parce que, d'autant que...
Attends, tu peux rappeler ce qui s'est passé, du coup?
Alors, l'Office de Français de la Biodiversité, il y a quelques agriculteurs qui, devant, ont déversé du fumier et des déchets, des pneus et autres déchets, pour dire qu'ils en avaient marre des contrôles et des normes. Moi, j'ai appelé le directeur, qui était un peu... les équipes étaient un peu sous le choc, il y a eu plusieurs centaines de contrôles dans l'année, mais aucune amende, et moins d'une dizaine, vraiment, d'obligations d'agir, qui étaient... des obligations de formation, c'était même pas des véritables amendes, donc ils sont vraiment dans la pédagogie et dans l'explication, et on a vraiment besoin malgré tout d'avoir des gens aussi qui vérifient parce que aujourd'hui l'agriculture vit des aides de la politique agricole commune, et ça s'entend que l'argent public part sur l'alimentation parce que c'est un enjeu fort, mais c'est normal aussi quand on distribue de l'argent public, on vérifie la manière dont c'est utilisé, et notamment quand ils vont vérifier l'usage des captages. Aujourd'hui on a des captages qui sont dans le cénomanien, qui sont des nappes captives, c'est pas vraiment possible d'autoriser ça, par exemple, parce qu'on a des risques de pollution. Mais on va faire un deuxième podcast, je pense, sur la question vraiment eau et agriculture pour expliquer peut-être un peu mieux ces enjeux.
Avec plaisir. Alors,
comme c'est la spécialité de Marine.
Donc on va voir ça sur un prochain épisode. On va remercier Marine. Ça va, Marine? Tu vas boire un petit peu d'eau.
Je vais boire un peu d'eau.
Ouais, exactement. Et puis du coup, on va pouvoir parler tout ça sur un second épisode. Merci
avec
beaucoup,
plaisir.
Marine. Merci, Nico. Salut.
Merci, Marine.
Salut Nico.
Salut Gaëlle.
On peut écouter les épisodes sur les applis de podcast. Il y a plus de 100 épisodes. Vous pouvez l'écouter sur Studio Zef 91.1. Dans l'émission La Lorgnette. Retourne-moi et Clémentine. Et aussi écouter les épisodes sur Blois Capital. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
Merci à Clément et à Jules.
Et si vous êtes sur Studio Zef tout de suite, c'est les Rock 7.